Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. À Davos, Angela Merkel et Emmanuel Macron défendent le multilatéralisme. Le populisme est un poison, prévient la chancelière allemande à la veille de l'arrivée du président américain Donald Trump. Après l'attaque qu'il a visée à Jalalabad, l'ONG britannique Save the Children suspend ses opérations en Afghanistan. La violence accrue rend les opérations difficiles pour de nombreuses organisations, constate le comité international de la Croix-Rouge. 5 épreuves finales, dont un grand oral. C'est la réforme du baccalauréat défendue par Pierre Mathiot. Hakim Kasmi nous précisera le contenu de ce rapport qui propose aussi la disparition des filières L, E, S et S. Enfin, avec Toufik Hakem, coup de projecteur sur le festival de bande dessinée d'Angoulême qui décerne ce soir son Grand Prix 2018. Grands patrons et dirigeants politiques, quelques 3000 personnalités se prestent à Davos pour le Forum économique mondial. Le président américain arrivera demain, en l'absence de Donald Trump et avant qu'il ne défende son programme « L'Amérique d'abord », les dirigeants européens prennent la parole pour défendre la mondialisation vertueuse et le multiculturalisme. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
La chancelière allemande Angela Merkel, comme Emmanuel Macron, plaide en faveur de solutions multilatérales.
Oui, plus que les solutions, c'est à l'esprit du multilatéralisme que la chancelière allemande a fait référence. Cet esprit est menacé, dit-elle. Or, il a permis de reconstruire, je la cite, l'Europe et il est le fondement des institutions internationales créées après la Seconde Guerre mondiale. Alors, sans le citer, Angela Merkel évoque notamment les accords de Bretton Woods, les accords économiques qui ont donné par la suite naissance à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le multilatéralisme version mondialisation des échanges est en effet moribond depuis près de 10 ans. Tous les accords commerciaux négociés ces dernières années le sont entre pays ou entités, mais plus du tout dans l'enceinte de l'OMC. Mais depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, c'est encore pire et il y a une inquiétude légitime pour ceux qui prônent le libre-échange comme à Davos de voir cette organisation disparaître. Alors, le président américain impose en ce moment des droits de douane anti-dumping sur des produits chinois, canadiens. On ne sait toujours pas quelle sera sa position finale sur l'ANENA, l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. Donc voilà, la chancelière allemande évoquant ces sujets sans vraiment les nommer, le président français lui a pris la parole à peu près vers 17h40. Le début de son intervention était uniquement sur la France, une façon vraiment de vendre la France et ses réformes aux investisseurs étrangers. Un discours donné tout en anglais, France is back, a-t-il dit. Et au moment où je vous ai rejoint, Aurélie, parce qu'il est toujours en train de parler, il était en train d'évoquer ses idées d'Europe à plusieurs vitesses. Car, dit-il, à 27, on n'avancera jamais de façon ambitieuse.
Merci Marie Viennot. Et à Davos, le président brésilien Michel Temer plaide pour la conclusion d'un vaste accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Il promet par ailleurs de lutter contre la corruption. Son discours intervient au moment même où le Brésil est suspendu au procès en appel de Lula, l'ancien président condamné à près de 10 ans de prison pour corruption, mais aussi grand favori de la prochaine élection présidentielle, attend la décision de la justice brésilienne. La correspondance de Juliette Ansa à Sao Paulo.
Dans les prochaines heures, le sort de l'icône de la gauche sera scellé par les 3 juges de Porto Alegre qui sont en train de voter pour confirmer ou non la condamnation prononcée par le juge Sergio Moro en juillet 2017. 9 ans et demi de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent. Lula peut être acquitté, voire sa peine réduite ou augmentée, mais la principale interrogation repose sur sa capacité légale à se porter candidat en octobre prochain. Même si des recours sont encore possibles, il pourrait être empêché de se présenter en vertu de la loi Ficha Limpa qu'il a lui-même instaurée en 2010 quand il était président et qui interdit aux politiques condamnés en deuxième instance d'être élus. En attendant le résultat, c'est tout un pays qui est profondément divisé. Le fondateur du Parti des Travailleurs, le PT, est en ce moment à San Bernardo parmi les syndicalistes de la métallurgie. Il s'est dit serein. Ce qu'ils sont en train de me faire n'est rien à côté du sort qui attend des millions de travailleurs brésiliens, a martelé Lula en t-shirt rouge face à la foule venue soutenir celui qui a permis de hisser 40 millions de personnes de l'extrême pauvreté au cours de ses 2 mandats. Dans une tribune publiée par le New York Times, l'économiste nord-américain Mark Weisbrot alerte « La démocratie brésilienne traverse son moment le plus fragile depuis la dictature militaire. Des années sombres qui ont sévi de 1964 à 1985 pendant près de 20 ans. Alors aujourd'hui, c'est tout un système judiciaire proche de la droite et allié à la presse qui désigne depuis des mois l'ancien président comme coupable. Lula est lui attendu par ses partisans en fin d'après-midi à São Paulo, place de la République, pour rejoindre à pied la grande avenue Paulista.
À quelques semaines de l'élection présidentielle russe, Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, est venu devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour une audience en appel devant la Grande Chambre. L'avocat, figure de proue de la lutte anticorruption en Russie, dénonce les nombreuses arrestations et condamnations dont il fait l'objet. En première instance, la Cour avait condamné la Russie, mais pas sur le caractère politique des poursuites, Anya Vogel.
Alexeï Navalny dénonce un harcèlement à la fois politique et discriminatoire. Lui qui a été arrêté à 7 reprises en marge de rassemblement contre le gouvernement. Il a obtenu en grande partie gain de cause en première instance devant la Cour de Strasbourg qui a condamné la Russie pour violation du droit à la liberté de réunion, détention arbitraire et procès inéquitable. Mais il souhaite aller plus loin.
C'était une procédure très importante pour nous aujourd'hui. Notre but principal est de prouver qu'il y a des motivations politique dans les accusations fabriquées de toutes pièces à mon encontre, pas seulement pour moi, mais pour tous les citoyens, en particulier dans les régions où les gens souffrent d'être persécutés parce qu'ils se battent pour leur droit de se rassembler.
Frappé d'inéligibilité, Alexeï Navalny appelle à boycotter les élections et à manifester dans tout le pays dimanche prochain. Certes, ces manifestations sont autorisées dans beaucoup d'endroits, mais ni à Saint-Pétersbourg ni à Moscou. On ne va pas se rassembler à 7 heures du matin en pleine forêt, dit-il. La Cour rendra son arrêt définitif dans plusieurs mois, bien après la présidentielle.
En Afghanistan, le groupe État islamique revendique l'attaque du bureau de l'organisation humanitaire Save the Children à Jalalabad, dans l'est du pays. Les autorités ont dénombré 5 morts et 24 blessés. Save the Children a décidé de suspendre temporairement tous ses programmes en Afghanistan. Les précisions de Sonia Ghezali de RFI à Kaboul.
Une résidence blanche criblée de balles, partiellement noircie par les flammes, un véhicule calciné à l'extérieur, les locaux de Save the Children sont ravagés. Durant plus de 7 heures, des hommes armés de Kalachnikov ont ouvert le feu dans les étages, lançant des grenades. 6 hommes au total vêtus d'uniformes militaires ont lancé l'assaut contre les bureaux de l'ONG britannique. À 9h10, heure locale, faisant exploser un véhicule à l'entrée avant de tirer au lance-roquettes contre la porte principale, leur ouvrant la voie. Si des employés parviennent à s'échapper en sautant par les fenêtres. D'autres se réfugient dans une pièce sécurisée où ils attendent jusqu'à la nuit tombée, que les secours les libèrent. Les forces spéciales arriveront avec peine à mettre fin à cette attaque revendiquée par le groupe État islamique qui s'est implanté dans l'est de l'Afghanistan il y a 3 ans. Save the Children se dit dévastée et a annoncé qu'elle suspendait temporairement ses opérations dans le pays. En octobre dernier, le comité international de la Croix-Rouge avait décidé pour sa part de réduire ses activités après la mort d'une de ses employées, une physiothérapeute espagnole tuée par balle par un patient dans le nord du pays. Cette attaque à Jalalabad intervient 4 jours après celle de l'hôtel intercontinental à Kaboul, où une 20aine de personnes a été tuée, dont une 15aine d'étrangers, attaque revendiquée par les talibans, qui accentue également la pression sur les étrangers.
Pôle emploi révèle les derniers chiffres de l'année 2017. Aucune tendance ne s'était clairement dessinée jusqu'ici et en décembre, pas de grands changements. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Aurélie.
Les chiffres des demandeurs d'emploi sont stables sur un mois et en légère baisse sur un an.
Oui, par rapport au mois dernier, la baisse est minuscule, moins 0,1% de chômeurs en catégorie A, donc les personnes n'ayant aucune activité. Et sur un an, vous l'avez dit, la baisse n'est pas bien plus importante, moins 0,5%, ce qui nous donne à la fin de l'année 2017 le chiffre de 3 709 000 personnes inscrites à Pôle emploi sans aucune activité en France, y compris départements et régions d'outre-mer. Toutes catégories confondues maintenant, c'est-à-dire les personnes sans activité et exerçant une activité réduite. Elles sont plus nombreuses sur un an, plus 2,7%. Alors ces chiffres sont les derniers chiffres mensuels que donnera Pôle emploi. Désormais, l'opérateur public ne fera plus que des annonces trimestrielles. Il sera plus facile ainsi de pouvoir dégager des tendances après une année 2017 où il a été pratiquement impossible de dire si la tendance globale du chômage en France était à la hausse ou à la baisse. D'ailleurs, on peut dire aujourd'hui, sans trop s'avancer, que la courbe du chômage en 2017 s'est aplatie, elle est restée stable. 2 points noirs à relever. Cela dit, en 2017, les seniors ont vu leur taux de chômage augmenter et les chômeurs de longue durée aussi. Prochain chiffre attendu donc fin avril, en attendant l'inclusion, après cela, dans les statistiques de Pôle emploi, des indépendants et des démissionnaires. Autre chiffre intéressant pour terminer, sorti aujourd'hui et provenant du ministère du Travail, le nombre de ruptures conventionnelles, il a atteint un nouveau record en 2017, 420 900, une hausse continue depuis leur création.
Anne-Laure Chouin, Jean-Michel Blanquer présentera la réforme du bac en Conseil des ministres le 14 février. Pour son projet de réforme, le ministre de l'Éducation nationale devrait s'inspirer du rapport que vient de lui remettre Pierre Mathiot, ancien directeur de Sciences Po Lille. Un rapport qui fait des propositions radicales à Kim Kasmi, puisqu'il prévoit la fin des séries L, ES et S et un baccalauréat resserré avec seulement 5 épreuves finales.
Oui Aurélie, concrètement, le rapport propose de limiter le bac à 4 épreuves finales qui représenteront 60% de la note auxquelles il faut ajouter l'épreuve anticipée de français en première. Avec, après bien les vacances de printemps, en terminale, 2 épreuves dites majeures que pourront choisir eux-mêmes les élèves, comme par exemple maths physique, lettres langues ou encore économie, sciences et histoire géographie. C'est la philosophie, quant à elle, eh bien, elle restera toujours obligatoire, en juin aussi pour tous les bacheliers, tout comme le grand oral, une nouveauté qui consistera à présenter, à préparer un projet qu'il faudra présenter devant un jury, et cela à préparer dès la seconde, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Dans le monde d'aujourd'hui, encore plus que dans le monde d'hier, il est absolument indispensable que chaque personne, et donc chaque jeune, maîtrise le français écrit et oral de manière correcte. Souvent, il est dit que les élèves français sont un peu inhibés, ne savent pas assez s'exprimer. Eh bien, nous devons faire en sorte que dans le futur, ils sachent bien s'exprimer dans un bon français, écrit et oral. Et en fixant des objectifs au baccalauréat, eh bien, on fixe des objectifs au parcours en seconde, en première et en terminale pour donner à tous les élèves de France ces compétences-là.
Quant aux 40% de la note restant, ils seront établis via un contrôle continu. Mais là aussi, rien n'est encore véritablement tranché en termes de modalités, comme nous l'explique Pierre Mathiot, l'auteur du rapport.
Le plus simple pour la nouvelle organisation du lycée serait que l'on prenne en compte les bulletins dans le cadre de ce qu'on appelle le contrôle continu. Le problème des bulletins, bien entendu, vous l'imaginez, c'est que l'anonymat des élèves et des lycées serait mis en cause. Et à l'autre bout, la solution la plus égalitaire, en quelque sorte, ce serait d'organiser ce qu'on appelle des épreuves standardisées, c'est-à-dire des partiels ou des épreuves ponctuelles. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on y gagnerait en maintien du caractère plus national du bac, mais on y perdrait en souplesse d'organisation.
Après la consultation, place désormais à la concertation avec les syndicats dès lundi. Une concertation qui s'annonce studieuse, voire tendue, avec certains syndicats au vu des délais imposés, puisque le ministre doit présenter la réforme du bac en conseil des ministres le 14 février prochain.
Un dossier qu'on continuera de suivre avec vous, Hakim Kasmi. Merci. La réforme constitutionnelle défendue par Emmanuel Macron ne convient pas au Sénat, bien décidé à se faire entendre. Le chef de l'État veut réduire le nombre de parlementaires, introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives ou encore limiter le nombre de mandats dans le temps. Mais pour le président Les Républicains du Sénat, Gérard Larcher, la limitation du cumul des mandats des élus locaux et des parlementaires dans le temps n'est pas acceptable. Bonsoir Camille André.
Bonsoir Aurélie.
Gérard Larcher a précisé ce matin la position des sénateurs.
Le président du Sénat a commencé par les sujets qui fâchent. La réduction du nombre de parlementaires d'un tiers voulue par Emmanuel Macron, ça ne résoudra pas la crise politique, a-t-il martelé.
La réduction du nombre de parlementaires n'est pas la condition d'un meilleur fonctionnement démocratique. Il est à mes yeux indispensable de préserver le lien entre les parlementaires et nos territoires. Et pour cela, nous proposons l'élection au moins d'un député et d'un sénateur par département. Et vous pouvez déjà mettre un coup de stabilo, c'est pas une proposition pour faire bien.
Gérard Larcher affiche cette même fermeté au sujet de la limitation du cumul des mandats à 3 consécutifs, mesure inacceptable d'après lui. Pour le reste, le président du Sénat a surmisé sur le dialogue. Il rejoint d'ailleurs le gouvernement sur la nécessité de rénover le travail parlementaire.
Les Français se plaignent d'être submergés par trop de lois peu lisibles qui compliquent leur quotidien.
Mais croire qu'on fera mieux la loi en diminuant la durée des débats, c'est un leurre, anticipe Gérard Larcher. Il demande un meilleur encadrement des ordonnances et de la procédure accélérée.
Il est indispensable de préserver le temps du débat parlementaire et le droit d'amendement. La procédure accélérée, qui a tendance à devenir la règle, c'était il y a 10 ans 50%, c'était en 2016-2017 100%. Elle doit donc, cette procédure, être mieux encadrée et le bicamérisme respecté.
Gérard Larcher a indiqué qu'il attendait maintenant de connaître la position du gouvernement, lui qui ne croit pas à un passage en force d'Emmanuel Macron par le biais d'un référendum.
Camille André, l'administration pénitentiaire durcit le ton dans un courrier adressé au directeur de prison. Elle réclame des sanctions contre les gardiens grévistes. Le statut des surveillants leur interdit le droit de grève. Cela fait pourtant 10 jours qu'ils se mobilisent pour réclamer plus de sécurité et de meilleures rémunérations. Pour le moment, les négociations avec la ministre de la Justice sont interrompues. La CGT pénitentiaire financière a même demandé la nomination d'un médiateur, mais l'Élysée indique que Nicole Belloubet va continuer à dialoguer avec les syndicats. Le mouvement des gardiens de prison a quelque peu retardé le début du procès de Jawad Ben Daoud. Il comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir hébergé, après les attentats du 13 novembre 2015, deux terroristes du commando des terrasses. Jawad Ben Daoud est jugé pour recel de terroristes, tout comme un autre prévenu, Mohamed Souma. Un troisième homme doit lui répondre de non-dénonciation de crime. Il s'agit du frère de Hasna Aït Boulassem, tué dans l'assaut du raid. Florence Turm, vous suivez actuellement l'audience.
Oui, le procès a débuté avec près de 2 heures de retard sur l'horaire prévu, un procès correctionnel hors norme pour lequel il a fallu prévoir non seulement une sécurité renforcée bien sûr, mais aussi un aménagement spécial. 3 espaces différents reliés en visioconférence avec de grandes tentes blanches dressées dans la salle des pas perdus du palais de justice de Paris. La 16e chambre, traditionnellement réservée aux affaires djihadistes, était bien trop petite pour accueillir l'ensemble des parties civiles. 500 personnes au total, victimes directes ou indirectes des attentats du 13 novembre. Elles ne sont pas toutes présentes aujourd'hui, mais certaines ont tenu à venir pour ce premier jour d'audience, la plupart accompagnées de leurs avocats, à qui la présidente du tribunal précise qu'ils auront tout le temps nécessaire pour plaider le moment venu. Mais dès l'ouverture des débats, Isabelle Prévost-Desprez prévient également, d'un ton sans réplique, toute personne qui perturbera les débats sera expulsée. Et elle entame la très longue lecture du rapport d'enquête. Assis sur le banc des prévenus, Jawad Ben Daoud, polo blanc et blouson noir, les cheveux tirés en arrière et ramassés en catogan, écoute avec attention, opine parfois de la tête. On l'a même vu enlever ses lunettes et essuyer quelques larmes. Pour avoir logé l'un des commandos dans son squat, il risque 6 ans de prison et même le double si jamais le tribunal suivait la demande de la partie civile de requalifier les faits en actes de terrorisme. Demande à laquelle ne s'est pas associé le procureur. Cette question très technique revient à déterminer s'ils sont des terroristes, a-t-il indiqué, et la position du parquet est de considérer qu'ils n'en sont pas.
Florence Turm en direct du Palais de Justice de Paris avec Raymond Albouy à la technique. Le 45e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême ouvre demain au public, mais avant les expositions et les rencontres avec les auteurs, c'est ce soir un grand moment, celui de la proclamation du Grand Prix 2018. Bonsoir Tofik Hakem.
Bonsoir.
On a l'habitude de vous entendre le matin pour le réveil culturel, mais vous passez nous voir ce soir pour nous révéler, en exclusivité pour France Culture, le lauréat du Grand Prix 2018.
Oui, d'autant plus que c'est une surprise. On attendait l'Américain Chris Ware ou le Français Emmanuel Guibert. Et finalement, c'est l'outsider des 3 finalistes qui remporte la mise, Richard Corben. Les quelques 1230 dessinatrices et dessinateurs qui votent pour le Grand Prix d'Angoulême récompensent ainsi un auteur pas nécessairement connu du grand public, mais très aimé, pour ne pas dire vénéré, par la communauté des auteurs de bande dessinée. Will Eisner, Philippe Druyer, Moebius, Riyad Satouf, pour ne prendre que ces illustres exemples, ont tous déclaré un jour leur admiration pour cet Américain qu'ils considèrent quand même maître de l'illustration fantastique et gore. C'est pas pour les enfants de 7 ans, mais Richard Corben, 77 ans, a des fans un peu partout dans le monde. Son graphisme singulier a été remarqué en France au début des années 80, notamment grâce au magazine Actuel et Métal Hurlant, et surtout grâce à l'éditeur Ferchid Baroucha. Richard Corben s'est fait connaître dans les années 70 avec sa série Den, ou les aventures érotico-fantastiques d'un guerrier hyper musclé, et plus tard avec ses adaptations des contes de Lovecraft ou des nouvelles d'Edgar Allan Poe. Stéphane Beaujean, le directeur artistique du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, nous en dit plus sur celui qui vient d'être tout juste déclaré Grand Prix Angoulême 2018.
C'est quelqu'un qui a un dessin que personne ne peut imiter, un dessin monde, c'est-à-dire qui est la projection mentale de son auteur. Il a émergé dans les années 70 dans les revues de science-fiction un peu contre-culturelles. C'est un enfant de Métal Hurlant à sa manière, sauf qu'il était aux États-Unis à cette époque-là. En France, on le voit apparaître à l'époque des premières bandes dessinées américaines par Ferchid Baroucha chez Albin Michel. Et immédiatement, il se caractérise par son esthétique qui est unique, avec des golgothes protéiformes extrêmement musclés qui vivent des aventures complètement délirantes, avec un dessin extrêmement coloré. Pour les dessinateurs, c'est absolument hallucinant. Ils ne comprennent pas comment il produit ses dessins et ses couleurs parce qu'en fait, il a dans sa tête un système de quadrichromie qu'il reproduit manuellement dans son garage. Et ça, personne ne sait le faire. Il faut être intellectuellement capable de dissocier les couleurs et de les réassocier sur 4 plaques différentes. C'est plutôt un enfant de Lovecraft, j'aurais envie de dire. Un enfant de la littérature fantastique. et d'un milliard de références qui sont quasiment intraçables tellement il les a digérées et recrachées à sa manière. C'est vraiment un artiste qui propose quelque chose d'unique qu'on n'arrive même plus à relier parfois à une culture, à une esthétique. C'est un dessin monde, c'est le sien. Et les gens s'y promènent quand ils apprécient cette invitation. Et pour ceux qui l'apprécient, comme Riyad Sattouf ou comme tous les auteurs qui ont voté pour lui, surtout, ils se rendent compte à quel point cette proposition est hallucinante de richesse.
Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival d'Angoulême, à votre micro, Toufi Kakem. On vous retrouve demain matin à 6h05. La Seine, le Rhône, la Saône et leurs affluents débordent. 15 départements restent en vigilance orange aux inondations en région parisienne et dans le nord-est de la France. Demain, il pleuvra de nouveau du sud-ouest au nord-est et sur les Cévennes, il fera entre 8 et 11 degrés dans la matinée. Les températures maximales seront en baisse sensible, 8 à 13 degrés en général, jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.